RFI, Radio France Internationale. 5h30 ici à Paris, 1 heure de plus à Moroni.
Vincent Dublange.
Et c'est Afrique Matin qui débute pour une demi-heure. On commence bien sûr par le journal inachevé, c'est le mot du jour. De Moroni à Moutsamoudou en passant par Fomboni, les Comores fêtent leur indépendance aujourd'hui, arrachée à la France voilà 50 ans. Mais sans Mayotte, que l'ensemble des Comoriens et Comoriennes que nous avons interrogés souhaitent voir leur être rattachés. Nous entendrons deux témoignages dans un instant. Au programme aussi, notre invité Afrique et notre reportage Afrique dans 10 minutes sur les espoirs et les désespoirs de la jeunesse comorienne. Nous sommes aussi à Libreville dans cette édition, au lancement hier du parti du président Oligui, les bâtisseurs avec une promesse de rupture par rapport au passé. Lutter contre les stéréotypes de genre liés au métier à Madagascar. Reportage à Tana dans 5 minutes, juste avant d'entendre la déception du sprinteur érythréen Binyam Germaï, seul Africain au Tour de France cycliste et qui a fini deuxième hier de la première étape et est loupé donc le maillot jaune. Il y a 50 ans, jour pour jour, Ahmed Abdallah proclamait l'indépendance des Comores de manière unilatérale. Toutes les Comores, pour lui en tout cas, quatre îles et leurs îlots, comme l'avait promis le président français Valéry Giscard d'Estaing, nous n'avons pas à briser l'unité de ce qui a toujours été l'unique archipel des Comores, disait le chef d'État français, le chef d'État de la puissance coloniale de l'époque. Et pourtant, aujourd'hui encore, malgré des condamnations de l'ONU, Mayotte, la quatrième île, est un département français. Une question qui demeure centrale cinq décennies plus tard. Ce 6 juillet 1975, Amina Djoussouf avait 25 ans. Elle était militante pour l'indépendance au sein d'une association étudiante. Elle venait de se marier avec le futur Premier ministre comorien, Abbas Djoussouf. Elle se souvient.
Je me trouvais chez moi, j'étais là avec mon mari, et il y avait justement un député de son parti, le RDPC, qui est venu le voir parce qu'ils étaient convoqués tous à la Chambre des députés. Je lui dis, mais dépêche-toi, va vite, tu vas voter pour l'indépendance. Il est parti. Tout de suite après, on a écouté la radio, et c'était très émouvant d'entendre le discours du président Ahmed Abdallah. L'ovation, j'étais vraiment heureuse. Pendant 150 ans, la France est restée ici. On avait un seul lycée pour les quatre îles. Il n'y avait pas de route, un seul hôpital. L'évolution normale des Comores, c'était l'indépendance. Bien sûr, quand on nous a dit que c'était une proclamation unilatérale, je savais qu'il faudra s'attendre à des coups de bâton peut-être. C'était un grand défi. La France ne nous a pas fait cadeau. Il y a eu une déstabilisation permanente.
Des coups d'État successifs. Avec l'implication...
Ben oui, de la France par le biais de Bob Denard.
Le fameux mercenaire.
Et tant que Mayotte restera sous occupation française, il faudra continuer le combat.
Amina Djoussouf, il y a un goût amer donc en ce 6 juillet, malgré la fierté, amertume exprimée par Ahmed Mohamed Tabit, militant politique pour l'indépendance. Il deviendra par la suite haut fonctionnaire aux Nations Unies et ambassadeur des Comores. Lui aussi se remémore.
La Chambre des députés ne pouvait pas contenir tout le monde. Beaucoup de gens étaient à l'extérieur et toute la place était envahie de gens. Vraiment, c'est l'euphorie. Tout le monde était très content. Les gens criaient « Ourou, ourou, ourou !» Je veux dire « Indépendance, 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 indépendance !» Mais cette satisfaction est un peu éphémère. Parce que tout de suite après la déclaration unilatérale d'indépendance, la France reconnaît l'indépendance des trois îles, mais on garde Mayotte. La déclaration unilatérale d'indépendance des Comores a été accueillie par toute l'Afrique.
Et par les Nations Unies.
Et par les Nations Unies, d'ailleurs.
Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le retour de Mayotte, ça reste un combat.
C'est un combat. Tous les Comoriens, ils veulent absolument que Mayotte réintègre.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial David Baché, qui a aussi interrogé l'historien Damir Ben Ali. Il est notre grand invité Afrique dans un quart d'heure. Reportage également, grand format sur les perspectives, la vision de la jeunesse écartelée entre eux. Partir ou rester, ce sera juste après ce journal. À vous signaler que les célébrations de ce 50e de l'indépendance aujourd'hui auront lieu notamment au stade Malouzini. La présidente tanzanienne est attendue, une vingtaine de délégations également, dont une délégation française et une marocaine.
RFI à Libreville, 104 FM.
Au Gabon, comme annoncé, l'Union démocratique des bâtisseurs est née. L'UDB, c'est le parti politique créé par le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema. L'Assemblée générale constitutive a eu lieu hier au Palais des Sports de la capitale devant plusieurs milliers de personnes. A signalé cette forte présence d'anciens cadres du PDG, le Parti démocratique gabonais, le Parti des Bongos, que l'ancien général Oligui a renversé voilà quasiment 2 ans. Pour autant, Yves-Laurent Goma, le président, plaide la rupture avec les vieilles pratiques. Reportage.
Dans un discours d'une demi-heure, Brice Clotaire-Oligingema a décliné l'identité de son parti qu'il dit sociodémocrate. Ses militants s'appellent donc démocrates bâtisseurs. Auteur du coup d'État qui a mis fin à 56 ans de règne sans partage du PDG, le parti des Bongos, Oligingema, a averti que l'UDB ne sera pas une machine de confiscation du pouvoir.
Je ne souhaite pas créer un parti électoraliste qui instrumentalise les élections. Je souhaite avoir un parti qui m'accompagne et non un outil politique qui va être un gouffre dans lequel je dois monnayer des majorités ou des consensus.
Les proches d'Oligingema saluent la naissance de ce parti.
C'est une bonne chose pour le président Brice Clotaire-Oligingema d'avoir ce outil politique. C'est une bonne chose.
Créer ce parti ne fait que renforcer le processus démocratique dans notre pays.
Très nombreux dans le palais des sports, les jeunes sont plutôt sceptiques.
Si on retrouve encore tous les cas du PDG encore dans son parti, bon, comme tout le monde dit, c'est un PDG bis.
Beaucoup de gens sont venus nous mettre beaucoup d'espoir, mais au final, rien.
Le parti devait présenter des candidats aux élections législatives et locales prévues dans 6 mois si le ministère de l'Intérieur lui délivre toutes les autorisations. Yves Laurent Goma, Libreville. RFI.
Un mot de la République démocratique du Congo. La contrebande de minerais depuis la RDC vers le Rwanda atteint des records. C'est ce que démontre un rapport d'experts des Nations Unies à paraître dans les prochains jours, mais en partie dévoilé par nos confrères de l'agence France Presse et de Bloomberg. Les détails sur RFI.fr ou notre appli pour téléphone RFI. À l'écoute de la Radio du Monde, 3h37 à Lomé, au Togo, après les manifestations, les condamnations judiciaires. Les 3 journées de protestation contre le pouvoir dans la capitale togolaise se sont soldées la semaine dernière par 7 décès et plusieurs blessés selon les organisations de la société civile togolaise. Vendredi, 31 personnes ont comparu devant la justice, 19 ont été condamnées à 11 mois de sursis, 12 autres ont été libérés. Tout cela est injuste. Car sans preuve, nous dit ce matin Maître Paul Dodzi Apévon, doyen du collectif des avocats des prévenus.
Nous avons compris que les agents de sécurité, ils ont reçu l'ordre d'arrêter des gens. Et la question que nous avons posée, lorsque une manifestation, dit-on, n'est pas légale, les forces de sécurité qui viennent, c'est juste pour disperser. Mais de quel droit ils peuvent poursuivre les manifestants pour aller jusqu'à leur domicile, pour aller les arrêter, pour aller jeter des gaz lacrymogènes, même dans les maisons. Donc, nous avons fait ce débat-là avec le parquet. Si on doit appliquer correctement la loi pénale qui est d'application stricte. On ne poursuit pas des gens de manière collective. On a la culpabilité individuelle. On doit démontrer que toi, tu as participé. Voilà les preuves. Or, ce que nous déplorons aujourd'hui dans notre juridiction ici, c'est que la police arrête quelqu'un, on l'amène ici et on lui demande de prouver son innocence. Ce n'est pas ça la loi pénale. La loi pénale, c'est celui qui poursuit, qui doit rapporter la preuve que tu es réellement coupable. Ce qui n'est pas le cas. C'est vrai que ceux que nous avons défendus ne feront que la plupart 1 mois en prison, mais la décision n'est pas juste. Pénalement parlant, elle n'est pas juste.
L'avocat Maître Paul Dodzi Apévon, le ministre togolais de l'administration territoriale, lui estime que ces manifestations sont des événements répondant à des appels à troubler l'ordre public et donc ordre du cadre légal. Merci de vous réveiller à nos côtés. Sur le 96 FM à Antananarivo, à Madagascar, c'est une barrière invisible à l'accès à l'emploi, les stéréotypes de genre liés au métier qui empêchent les jeunes de se tourner vers certains secteurs porteurs qui offrent du travail. C'est le cas de milieux où les hommes sont surreprésentés, comme les travaux publics, ou au contraire de milieux comme la mode, univers connoté comme féminin. À Antananarivo, une conférence était organisée auprès d'une centaine de jeunes entre 15 et 18 ans, tous vulnérables et en décrochage scolaire, l'occasion de penser à une autre voie possible pour le futur. Pauline Le Troquet.
L'une est conductrice de travaux, l'autre dirige une équipe de 90 chauffeurs poids lourds pour l'un des géants de la distribution pétrolière sur l'île. Face à l'Assemblée, les deux femmes prouvent qu'il est possible de trouver sa place dans ces secteurs où les hommes sont surreprésentés, sans omettre pour autant les remarques sexistes subies au travail. Leur histoire résonne chez Sedge, jeune homme de 19 ans.
Moi par exemple, j'ai une sœur qui travaille dans la mécanique et je sais qu'elle est douée et je sens bien que c'est sa passion et que rien ne peut l'arrêter. Donc ça me fait du bien d'entendre aujourd'hui qu'elle n'a pas à être discriminée.
Car les injonctions familiales comme les manuels scolaires encouragent le choix d'un métier selon un genre associé. Fanny Rin, 21 ans, veut voir sa génération dépasser ses clichés de genre dans le monde du travail. Lui est agent administratif chez Made for a Woman, une entreprise de confection d'accessoires en raffia.
Un travail, c'est pas un genre. Il ne faut pas donc passer à côté du potentiel économique de la mode simplement parce que c'est soi-disant un métier de femme.
Ouvrir toutes les portes possibles de l'emploi, c'est la mission que se donne Karina Cole, coordinatrice du centre d'insertion professionnelle de de Graines de Bitume, une association qui accompagne des jeunes de la capitale confrontés à la rue.
Ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont l'air de dire, c'est que ce qui est important, c'est surtout construire un projet professionnel qui est en accord avec ce qu'on aime, avec notre personnalité, de faire un métier qui nous correspond.
Une démarche novatrice à Madagascar, où la majorité des jeunes, par besoin de survie, se tournent vers un métier par défaut. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Les sports pour terminer avec ces records des Kenyans Faith Kipyegon et Béatrice Chebet hier à Eugene, meeting de la Ligue de Diamants, record du monde amélioré sur le 1500 mètres et le 5000 mètres. La Coupe d'Afrique des Nations féminines s'est lancée hier au Maroc. Le Maroc et la Zambie ont fait match nul de partout en match d'ouverture. À l'Euro féminin de foot, la France a battu l'Angleterre 2-1. Et puis à la Coupe du Monde des clubs, on connaît les affiches des demi-finales. La deuxième, ce sera Real Madrid-PSG. Les deux équipes ont gagné hier. Le Tour de France cycliste, c'est parti. Première étape mouvementée hier dans le nord de la France. Des bordures, c'est-à-dire pour les non-spécialistes du vélo, des accélérations subites qui, avec l'aide d'un vent soufflant de côté, scindent le peloton en plusieurs morceaux. C'est ce dont ont profité certains leaders, comme les deux favoris, Pogacar et Vingegaard. D'autres ont été piégés, ils perdent 39 secondes, le Belge Evenepoel, le Slovène Roglic ou l'Espagnol Rodriguez. Les sprinteurs, même constat, beaucoup de piégés, et puis quelques-uns qui s'en sortent et qui ont pu se disputer la victoire à Lille. À ce jeu, Jasper Philipsen, le Belge, a été le plus rapide. L'Érythréen Benyam Girmay termine deuxième et frustré.
Déjà, je suis content d'être arrivé sans pépin. Mais bon, je commence à en avoir un peu marre de ces deuxièmes places. Quand j'ai passé la ligne, j'étais très déçu. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai manqué de coéquipier dans le final. J'espère que ce sera mieux dans les jours qui viennent. Chapeau à Philipsen et à son équipe. Ils étaient au moins 5 ou 6 dans le groupe de tête et ils ont pu manœuvrer. Moi, j'étais tout seul, j'ai gaspillé beaucoup d'énergie et à la fin, Philipsen était tout simplement le plus rapide.
Pas de maillot jaune donc pour Benyam Girmay qui prend tout de même le maillot blanc de meilleur jeune. Thomas de Saint-Léger suit pour nous le Tour de France.
Afrique Matin sur RFI. Vincent Dublange.
Et vous savez quoi, on va être encore très comorien pour le quart d'heure qui vient sur RFI. 5 années d'indépendance donc pour 3 îles de l'archipel. Inachevé, nous dit notre invité, l'historien Damir Ben Ali, qui continue de réclamer, comme tant d'autres, le retour de Mayotte dans le Giron. Et il nous raconte aussi ses souvenirs de ce 6 juillet 1975, c'est dans 5 minutes sur RFI. Un mot aussi à la une, Kafala, responsabilité en arabe, qui désigne le système de travail des employés africains ou asiatiques au Moyen-Orient, au Liban notamment, de l'esclavage moderne. Parfois, c'est l'objet d'une pièce de théâtre. Au Festival d'Avignon, nous y sommes dans 10 minutes. Et d'abord, le grand format de la rédaction Afrique à 6h43 à Moroni. C'est donc aujourd'hui, 6 juillet 1975, 6 juillet 2025, les Comores célèbrent ce dimanche le 50e anniversaire de leur indépendance. Et on va terminer notre série de reportages et d'entretiens. Quelles sont les aspirations de la jeunesse comorienne? Dans l'archipel, 53%, plus de la moitié de la population, donc à moins de 20 ans, c'est ce que dit la Banque mondiale. Banque mondiale qui estime que le taux de pauvreté devrait passer de 38% à 36% de la population en 2030. C'est une perspective moyennement enthousiasmante, on va dire, 50 ans après l'indépendance. À quoi rêve donc la jeunesse comorienne? Rester, construire, partir? Reportage de notre envoyé spécial David Bachy.
Ben Abdourahmane a 29 ans, une femme et un bébé d'un mois et demi. Ils vivent à Mitsoudje, 15 km au sud de la capitale, Moroni. Sa vie ne prend pas la direction dont il avait rêvé, mais il ne baisse pas les bras.
Je suis parti à Madagascar faire des études de droit et en Sciences Po. J'ai pas échoué, mais au final, j'ai pas pu terminer mes études à cause des moyens financiers. J'avais des rêves, j'avais des envies, et c'est pas ce que la vie m'a réservé. Aujourd'hui, je me suis lancé dans l'agriculture. J'ai une vache et je cultive aussi de la banane, du manioc. À l'avenir, j'aimerais ouvrir une entreprise dans l'agriculture, la transformation. J'aimerais que mes produits soient valorisés dans le national. Ça peut marcher.
Kaviani Moumini, 27 ans, travaille dans une pharmacie de Mbeni, dans le nord-est de l'île de Grande Comore. Qu'il se verrait bien quitter.
Je gagne un peu, je me sens un peu bien, mais pas trop. Si j'aurais la possibilité ou l'occasion de partir à l'extérieur pour gagner de ma vie, je vais le faire. Ici aux Comores, la situation est très difficile. Je ne gagne pas suffisamment. Je te le dis, j'ai envie de partir. Si j'aurai l'occasion, je vais le faire. Mais en France, on peut partir là-bas. Comme on ne gagne pas ici, on préfère de partir à l'extérieur.
Hachmi Oumar Husseini, 21 ans, sera bientôt diplômé de l'université de Moroni, une licence en soins obstétricaux. Née sur l'île d'Anjouan, elle compte encore voyager, mais pas pour émigrer.
J'aimerais vraiment aller à l'étranger, faire une spécialité, échographiste par exemple, puéricultrice.
Et ça, il faut le faire à l'étranger ?
Oui, il n'y a pas de formation au Comore. Pour le faire, il faut aller à l'étranger. J'aimerais bien en France ou au Sénégal ou au Maroc. Le but, c'est de revenir, participer aussi à l'évolution du pays. Il y a plein de choses qui ne sont pas dans notre pays et c'est à nous d'apporter ça ici. Ce ne serait pas bien d'aller apprendre et rester là-bas, mais ce serait bien de revenir ici, apporter notre savoir.
Un enthousiasme qui contraste avec la résignation de bien des Comoriens, usés par des années d'immobilisme. Hachmi Oumar Husseini, elle, se veut résolument optimiste et constructive. David Baché, de retour de Moroni, RFI.
Et notre invité, Afrique, dans un peu plus d'une minute sur Radio France Internationale. Et d'abord, la une de l'actualité internationale de ce dimanche 6 juillet 2025. À un petit quart d'heure du prochain journal sur RFI. Des discussions indirectes attendues à Doha, au Qatar aujourd'hui, délégation israélienne et du Hamas. Elles vont participer avec les médiateurs qatariens à la négociation de ce projet de trêve. Un projet qui permettrait 2 mois de cessation des combats dans la bande de Gaza, la libération de 10 otages israéliens toujours en vie. En échange, plusieurs Palestiniens détenus par Israël seraient relâchés. Mais concernant les demandes du Hamas, le Premier ministre israélien les qualifie d'inacceptables et notamment sur le retrait des troupes israéliennes du territoire de Gaza. À suivre donc, en attendant la signature éventuelle d'une trêve, les bombardements israéliens ont fait 42 morts de plus hier d'après la défense civile de Gaza. Au moins 57 338 Palestiniens, majoritairement des civils, tués dans la campagne de représailles israélienne à Gaza, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, qui sont jugées fiables, on le rappelle, par l'ONU. Lui est né en Afrique du Sud, mais ce sont les États-Unis qui le préoccupent. Elon Musk, après avoir participé activement au gouvernement, à l'administration de Donald Trump, se décide à lancer sa propre formation politique. Il veut, dit-il, concurrencer le bipartisme traditionnel et très installé, il faut le dire, aux États-Unis entre républicains et démocrates. Il a nommé son parti le Parti de l'Amérique, né de la rupture donc entre Elon Musk et le président américain à cause de la loi budgétaire de Donald Trump. Elon Musk qui estime qu'elle ne va faire que creuser le déficit. Je vous signale aussi ce nouveau bilan humain pour les inondations au Texas. 43 morts, 28 adultes et 15 enfants au moins. Et retour donc sur les 50 ans d'indépendance des Comores avec notre grand invité Afrique, Damir Ben Ali, ancien militant indépendantiste, historien, ex-président de l'Université des Comores. Pour commencer, il se souvient bien entendu de son émotion le jour de la proclamation tant attendue de l'indépendance. Il était au micro RFI de David Baché.
Damir Ben Ali, bonjour.
Bonjour.
Avant d'interroger l'historien, je m'adresse aux citoyens comoriens que vous êtes. Où étiez-vous le 6 juillet 1975 pour la proclamation de l'indépendance ?
Ah, moi, j'étais en France. Je faisais des études. Donc, j'étais chez M. Mohamed Ahmed, l'ancien chef du gouvernement comorien pendant l'autonomie interne. On était à l'écoute de ce qui s'est passé à Moroni. Ah, j'étais très heureux, très fier. J'ai milité à un parti qui demandait l'indépendance, donc j'étais très content.
Vous étiez vous-même engagé pour ce combat contre l'occupation coloniale française ?
Absolument, oui. Nous avions créé un parti politique, RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple comorien. J'ai sauté de joie, d'autant plus que j'entendais les cris de joie ici à Moroni.
C'était l'aboutissement d'un combat ?
Long, oui. Long pour les partis indépendantistes. Enfin, long pour les Comoriens qui étaient à Zanzibar, à Dar es Salaam, à Madagascar.
Dans tous les pays voisins.
Ce sont eux qui avaient les premiers créé des structures politiques indépendantistes. Oui.
50 ans après, est-ce que l'indépendance a tenu ses promesses ?
Cela dépend. Dans les domaines où on nous faisait miroiter la mission civilisatrice de la France,
telle qu'elle était présentée à l'époque par l'État français.
Telle qu'elle était présentée à l'époque de l'État français, nous avons fait des progrès énormes en 50 ans. On avait moins de 40 km de goudron sur les quatre îles. Maintenant, il y a quand même beaucoup de routes bitumées. Tous les villages actuellement ont une école au moins. Les préfectures, ils ont un lycée, mais on n'a pas encore réussi à créer un enseignement comorien. C'est toujours l'enseignement français assimilationniste qui forme des émigrants vers la France, mais qui ne forme pas véritablement des Comoriens pour construire les Comores. Il y a beaucoup de progrès à réaliser.
Pardon d'avance pour cette vaste question, mais sur le plan économique, sur le plan de l'accès aux services essentiels pour les populations, l'eau, la santé, quel bilan est-ce que vous faites de ces 50 années d'indépendance?
Bien sûr, on n'est pas satisfait, parce que plus on réalise, plus on a besoin. L'eau courante, par exemple, elle n'existe pas dans toutes les régions. Même à Moroni, il n'y a pas partout l'eau courante. Il y a l'électricité, il y a des coupures. Vous voyez, la route, tout de suite après l'indépendance, la route est allée jusqu'au sud. Les problèmes qu'il y a, c'est que l'entretien n'est pas assuré. Il y a des problèmes de gestion.
Justement, sur le plan de la gestion politique, de la gouvernance, sans refaire chaque période, puisque le pays a connu une succession de régimes, certains autoritaires, des coups d'État, ce sont 50 années, on peut dire, d'indépendance pour le moins instable.
Instable, oui. Ça a été très difficile, parce que les élites, toujours, qui assuraient la gouvernance, il n'y avait pas de dialogue avec la population. Ici, la lutte pour l'indépendance n'était pas une lutte des idées. Il n'y en avait pas. On luttait pour que la France parte. Un point, c'est tout. Et quand elle est partie, les hommes politiques luttent pour entrer dans le pouvoir. Et là, ça n'a pas changé jusqu'à présent. C'est ça le problème. Ça manque de projets.
Justement, sur la situation actuelle, sur le régime actuel, certaines élections, à commencer par la dernière présidentielle, sont contestées. L'opposition dénonce un régime autoritaire ou dictatorial. Comment est-ce que vous analysez cette situation 50 ans après l'indépendance?
Il faut un changement de mentalité. Quand les régimes parlent, ils s'emploient à dévaluer des hommes, mais ils n'expriment pas des idées. Toujours le même problème. Il y a des partis politiques, mais qui ne proposent rien. D'ailleurs, le parti qui est au pouvoir ne propose rien non plus. Pour la gouvernance, il y a beaucoup de choses à faire.
Pour conclure, comment est-ce que vous percevez, 50 ans après l'indépendance, le rapport entre les Comores et la France?
Il est dangereux d'être contre la France quand on gouverne les Comores. La France a beaucoup de moyens pour déstabiliser. D'abord parce qu'ils financent certains projets visibles par la population. Ils sont toujours d'influence politique.
Dans quel but?
Pour protéger Mayotte.
Mayotte, la quatrième île des Comores, qui appartient toujours actuellement à l'État français. C'est d'ailleurs une revendication nationale ici aux Comores.
Absolument.
De récupérer ce territoire.
Absolument. L'État français n'a pas accepté l'indépendance jusqu'à présent. Tant que la Mayotte, elle est contre l'indépendance des Comores.
Donc de votre point de vue, cette indépendance est inachevée?
Ah, elle est inachevée, oui. C'est resté un combat à mener.
Damir Benali, merci.
Entretien signé David Bachet à tout moment sur notre appli de podcast RFI Pure Radio. À 5h53 à Paris, les têtes d'affiche de Denise Epoté de TV5 Monde au Niger et au Mozambique. Ce matin, elle répond à Nicolas Brousse.
Bonjour Denise Epoté.
Bonjour Nicolas Brousse.
Dans votre palmarès cette semaine, deux jeunes innovateurs passionnés de robotique. Le premier est originaire du Niger. Abdul Majidou Moussa est diplômé en électromécanique de l'Institut spécialisé des technologies appliquées interentreprises de Casablanca. Il a fondé Mage Creativity, une start-up de robotique qui a conçu avec des matériaux locaux un prototype de moto électrique baptisé Made in Niger.
C'est pour assouvir sa passion qu'Abdul Majidou Moussa s'est formé tout seul en robotique et en intelligence artificielle, afin, dit-il, de créer des solutions technologiques pour contribuer au développement du continent, en révolutionnant la mobilité malgré l'état des routes. En attendant de réaliser son rêve, intégrer MIT, l'une des meilleures universités au monde, à Niamey au sein de sa start-up, depuis 2021, il peaufine le prototype d'une trottinette électrique dont les pièces en aluminium ont été produites localement. Quatre modèles sont en cours de préparation, le collégial destiné aux élèves avec une vitesse limitée, l'universitaire avec une vitesse renforcée, le national, une version polyvalente adaptée et le dernier modèle avec une autonomie augmentée destinée aux livraisons. Abdul Majidou Moussa figure dans le prestigieux classement 2025 de Forbes Afrique des jeunes de moins de 30 ans qui sont les nouveaux visages du leadership africain.
Également passionné de robotique, João Antonio Rego est lui originaire du Mozambique, dans un pays qui compte près de 3 millions de déficients visuels. Le jeune étudiant en ingénierie électronique a conçu Vision Hope, des lunettes intelligentes.
C'est dans la salle à manger de la maison familiale à Matola, dans la banlieue de Maputo, que João Antonio Rego travaille depuis 4 ans sur des lunettes connectées afin d'offrir une autonomie aux personnes déficientes visuelles qui ne peuvent s'offrir une canne et encore moins un chien guide dont le coût varie entre 15 000 et 25 000 euros. ressemblant à un casque de réalité virtuelle qu'il a recouvert d'un tissu. Les lunettes sont reliées à une batterie qui se porte en bandoulière. Elle est dotée d'un système intelligent qui signale son niveau de charge. Équipée de capteurs dans un rayon de 120 degrés, elle détecte les obstacles et émet des vibrations pour prévenir le porteur. En attendant de nouer des partenariats pour produire ces lunettes connectées, João Antonio Rego travaille sur de nouvelles fonctionnalités pour détecter des obstacles fins tels que des brindilles, des cordes ou des flaques d'eau. Des cobayes lui ont également suggéré d'intégrer la voix afin de préciser le type d'obstacle rencontré sur leur chemin. Cette innovation a valu au futur ingénieur en électronique de remporter en 2022 le prix du jeune créatif pour l'innovation technologique.
Et voilà pour cette dernière tête d'affiche de la saison. Bon été Denise, on se retrouve à la rentrée.
Et vous Nicolas, on vous retrouve tout à l'heure, Afrique Midi, midi 30, temps universel. RFI Culture avant un nouveau journal international. On part dans le sud de la France, en Avignon, 79e festival de théâtre. Il s'est ouvert hier soir avec une pièce Note Nuit en créole capverdien. Déjanté, burlesque, mettant notamment en valeur la tradition du carnaval du Cap-Vert, cher à l'autrice capverdienne Marlène Montero-Freitas. Cette édition du Festival d'Avignon, qui met la langue arabe à l'honneur cette année, avec de multiples auteurs, autrices, des mots aussi, comme Kafala, auquel s'est attaché le chorégraphe libanais Ali Charour, sur scène des employés de maison éthiopienne Muriel Maalouf.
Kafala signifie responsabilité en arabe, mais c'est d'une bien triste responsabilité qu'il s'agit. Dans le système de la kafala, les jeunes femmes débarquant au Liban pour y travailler se trouvent dépossédées de leur passeport et donc à la merci de leur employeur. Ali Charour, en pleine guerre entre Israël et le Hezbollah en octobre dernier, a rencontré quelques-unes de ses employées abandonnées par leur patron qui avait fui les bombardements. Elles campaient en bord de mer. When I saw the sea, quand j'ai vu la mer, racontent leur histoire incarnée par trois femmes éthiopiennes. Ali Charour.
Ces trois femmes racontent leur vie et en même temps, elles sont porteuses de milliers d'histoires de femmes qui ont subi ce système d'esclavage moderne. Leurs récits se traduisent par des mots, mais aussi par la danse et la musique. Dans le travail, on est parti de l'histoire de chacune de ces femmes et aussi de leur façon de se mouvoir, de chanter. On a mis en avant cet héritage qui se mêle au nôtre, car certaines vivent au Liban depuis plus de 25 ans, donc elles ne représentent pas l'autre, l'étranger. Elles sont un mélange de leur culture d'origine éthiopienne et de la culture libanaise.
Et en écho à ces histoires, on écoute les chansons composées et interprétées sur scène par Lynn Adib et Abed Koubaïsi.
Les chansons sont inspirées des noms des trois femmes sur scène qui ont été parfois changées à leur arrivée au Liban. Ces femmes sur scène retrouvent ainsi leur identité et leur nom d'origine, une façon de leur rendre l'humanité à laquelle elles ont droit.
Ali Charour a créé jusque-là des pièces autobiographiques partant de sa propre famille. Il sort pour la première fois de ce chemin.
Cette pièce ne parle pas de ma famille de sang, mais ces personnes prennent soin de nos maisons, de nos enfants. Elles ont quitté les leurs pour s'occuper de nous et ont rêvé d'un avenir meilleur. Moi-même, en tant que Libanais, j'appartiens à une population dont les trois quarts ont émigré. Je peux donc comprendre ce que c'est de quitter son pays et les siens. Ma sœur et mon frère sont en Europe et souffrent du racisme envers les Arabes.
When I saw the sea, un chant d'humanité qui retentit au-delà des frontières libanaises. Muriel Maalouf, Avignon, RFI.
Et c'est ainsi que se termine cette première édition d'Afrique Matin. À la une de la prochaine édition, le bilan toujours dramatique des inondations et l'accueil des déplacés à Kinshasa en République démocratique du Congo, et puis l'export illégal des minerais congolais vers le Rwanda. C'est à la une dans une demi-heure, dans 30 secondes, un nouveau journal.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, je vous raconte l'histoire d'un sample, celle d'une réédition, et je tente même une définition du cruise beat, un son nigérian qui avoisine les 155 BPM au compteur. Ça va chauffer.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
BPM. L'art de raconter le monde, Jean-François Cadet.
Toutes les autres, la pièce de Clotilde Cavaroc, mise en scène par Élise Noirot,
raconte avec beaucoup de pudeur une question aussi taboue que controversée, la relation entre les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants sexuels. Une activité toujours considérée en France comme de la prostitution.
L'art de raconter le monde avec Jean-François Cadet, tout à l'heure à 18h40 TU sur RFI.